Des 6 de Chasson Gris, numéro 174. Émission spéciale ce soir car nous recevons dans les studios de Fréquence Mutine Double Elvis. Bonsoir Double Elvis.
Hello.
Salut.
Ça
Double Elvis au grand complet.
Double Elvis au grand complet. Pour paraphraser une collègue, Triple Elvis.
Ouais.
On va commencer par une petite présentation du projet musical. Vous voulez bien présenter un petit peu ce qu'est Double Elvis. Qui est Double Elvis?
Bah, Double Elvis est né en 2008, février 2008.
Uh-huh.
C'est un groupe qui est né un peu sur les cendres d'un autre groupe qui n'avait absolument rien à voir au niveau artistique, qui s'appelait Melville.
Ouais.
Et donc que j'ai créé avec Gwen, qui se trouve à côté de moi, qui est guitariste.
D'accord.
Donc à la base, c'est deux chansons à moi que j'ai produit un peu tout seul dans ma chambre, comme un grand, et que je lui ai proposé par la suite. Et puis c'est un projet qui a pris des proportions inattendues en fait. Par le biais d'Internet.
Ouais. Il y a eu MySpace au départ.
Il y a eu MySpace au départ, ouais. Et en fait, ce qui pour moi était un peu une blague, enfin quelque chose d'assez léger au début, quand j'ai créé ce MySpace-là, c'est parti un petit peu en torche assez rapidement. Donc il a fallu envisager après d'autres possibles, à savoir un disque, de la scène, tout ce qui fait partie de l'histoire d'un groupe. Quoi. Donc il a fallu mettre en marche une espèce de machine qui au début était un petit peu une aventure en solitaire et un petit peu dilettante, quoi. Donc voilà.
D'accord.
Quelque chose qui a pris des proportions
c'est vraiment
tué assez rapidement.
Ouais, c'est vraiment le succès que t'as apporté le MySpace qui t'a décidé de pousser un peu plus loin le projet ou pas? C'était une façon de tester les morceaux.
Ce qui est intéressant sur MySpace, c'est que c'est une espèce d'effervescence gratuite de la part des gens. C'est une démarche gratuite.
Ouais.
Les gens adhèrent, mais sans qu'il y ait de support promotionnel, publicitaire habituel ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'avantage d'Internet, c'est que c'est un ressenti immédiat de la part de l'éditeur. Il aime ou il aime pas. Et cette gratuité-là, cette liberté-là, on fait aussi qu'il zappe assez rapidement.
Tout à fait.
Donc on a vraiment une réaction presque animale, quoi. C'est j'aime ou j'aime pas. Je continue sur toi ou je clique et tu disparais, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et donc c'est finalement une réaction assez, assez encourageante, hein, parce que c'est cette pulse un peu immédiate qui fait que tu te dis, oups, il y a peut-être un truc à creuser, quoi.
Ouais, il y avait eu des programmations radio qui avaient découlé de...
Assez rapidement, ouais. Ça a commencé par la BBC, donc direct.
Voilà.
Allons-y gaiement. Et ça s'est enchaîné avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, enfin plein de trucs assez incroyables. Le Pérou aussi, alors voilà, on va comprendre. Ouais.
Peut-être que les lamas aiment bien la musique.
Mais ouais, il y a une radio rock au Pérou.
Bah voilà.
Donc voilà, un espèce d'engouement comme ça qui a fait boule de neige.
Mm-hmm. D'accord, donc après l'idée c'était de pousser un petit peu un peu plus loin l'idée du projet. Donc il y a eu l'idée de faire de la scène ensuite, j'imagine.
Oui.
C'est arrivé assez rapidement ou...
Non, parce qu'en fait c'était... Ouais, non,
ça... Ou ça a pris du...
Ouais, et puis ça n'a pas été une volonté première de faire de la scène.
D'accord.
Ça a été encore une fois une demande internet.
D'accord.
Suite à une rencontre avec une tourneuse, enfin le mot est assez moche, mais bon, bref, allemande, qui s'est montrée vraiment intéressée par le groupe et qui nous a monté une tournée là-bas. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là qu'il a fallu un petit peu se pencher sur la scène et matérialiser un peu tout ça. Ce que j'avais pas du tout prévu en fait. Hein. Et donc la scène s'est faite par ce biais-là aussi, encore une fois par une demande.
D'accord. C'est combien de temps après que tu aies lancé le MySpace, cette demande de scène?
Le MySpace a dû être créé en février 2008, si je ne m'abuse. Et on était en Allemagne en octobre. Hein. Donc ça s'est quand même fait assez rapidement. Et ça a été pas mal de boulot de réussir à adapter toute cette musique-là. Parce qu'en fait, moi j'ai écrit ça en toute liberté.
Ouais.
Donc en me disant, je peux très bien m'autoriser à avoir 26 guitaristes, 4 bassistes, 12 batteurs, peu importe, je suis tout seul.
Mm-hmm.
Donc c'est une musique que j'ai vraiment écrite de manière très orchestrée,
ouais.
Sans me pencher sur le problème de me dire un jour ce sera peut-être un groupe avec guitare, basse, batterie, quoi. Tu vois, vraiment,
sans se poser la question de délivrer les morceaux.
Voilà, sur une scène.
Sur une scène.
Mais quand il a fallu adapter ça à la scène, à mesure que je travaillais sur les morceaux, je me suis dit, mais En même temps, j'ai pas envie de renoncer à ce côté-là, ce côté un petit peu. Je pense qu'un journaliste de Rock and Folk parlerait de rock pompier, comme on peut le faire pour Muse ou Placebo, un petit peu ça, mais j'avais pas envie de renoncer comme ça à tous ces arrangements, tout ce empilage qui fait aussi le son un peu double hélice, quoi. Et donc il a fallu envisager d'autres possibilités d'adapter ça à la scène.
Ouais.
Et j'ai pris le chemin inverse, en fait. Plutôt que de m'entourer de 26 musiciens différents, je me suis dit, on fait l'inverse. Moi, quand j'étais petit, Depeche Mode, ça m'a jamais gêné que les types soient 3 ou 4 derrière des claviers. Donc on va faire pareil. Donc on va respecter le double hélice, on va faire 2 bonhommes sur scène. Mm-hmm. Et tout l'environnement musical autour va être respecté. Et on va essayer d'habiller ça différemment, par le biais d'éclairage, par le biais de... Enfin, voilà, d'un espace d'univers dans lequel les gens vont rentrer ou pas, mais bon, après, mais voilà, un truc plus proche du théâtre ou du cinéma que le groupe classique guitare, basse, batterie, quoi. Ouais, parce d'accord. qu'en plus, ça aurait pas sonné.
Donc, ça veut dire que dans la façon dont tu as composé les morceaux, quelque part, tu pensais quand même à la façon que ça sonnerait si ça devait être joué live.
Ben non, en fait, non parce que j'y suis vraiment allé en toute liberté, sans jamais envisager ça, quoi, et justement, sans mettre aucune contrainte au niveau de l'écriture, quoi.
D'accord.
Franchement, si j'ai envie d'empiler 28 guitares, je le fais, quoi. Et non, parce qu'en fait, raisonner toujours systématiquement par rapport à un travail en public, c'est renoncer aussi à plein de choses, quoi. Parce que tu te dis, mais là, si je fais ça, ça pourra pas être reproductible sur une scène, quoi. Et j'ai plus envie de me faire chier avec ça.
Ouais.
Honnêtement. Voilà quoi, si j'entends un fil harmonique à un moment sur 2 mesures, eh ben, il sera là quoi. Tu vois, la musique c'est aussi c'est aussi une liberté qu'on s'octroie ou pas quoi.
Une histoire de barrière.
Voilà. Ouais. Et moi j'évolue depuis tellement longtemps dans un schéma ultra classique et balisé de groupe rock que bon, pourquoi pas essayer autre chose, tu vois.
D'accord. On va parler de l'EP. Puisqu'il est sorti il y a déjà combien de temps? Quelques semaines déjà?
Ah bah non, il est sorti le 16 avril.
J'ai une certaine notion du temps qui voilà.
Non, le 16 avril. On l'a reçu il y a quelques semaines.
Ouais, d'accord. Donc il est sorti officiellement le
16 avril. Ah, il est sorti que le 16
avril. D'accord. Donc signé sur un label allemand, Ecozone. Mm-hmm. On peut en discuter, on peut en parler un petit peu.
Bien
ce
sûr.
Label, c'est donc la façon dont ça s'est fait en fait déjà la signature.
Ça a commencé encore une fois sur Internet, par une demande Internet. Qui est plutôt très bien tombé d'ailleurs au niveau timing, parce qu'en fait on partait en Allemagne peut-être un mois et demi, deux mois après.
Ouais, carrément.
Et donc j'en ai profité moi pour provoquer une rencontre avec ces gens-là, pour les voir en vrai. Parce que les rencontres internet, c'est bien joli, mais voilà. Ouais. Ça ne reste que du virtuel. Et donc on s'est rencontrés dans leurs locaux à Elsdorf, à côté de Cologne.
Okay.
Et on a pu discuter et puis voilà, on s'est mis d'accord sur une stratégie, sur un plan pour l'avenir, quoi.
D'accord. Donc eux, c'est pareil, ils avaient tilté entre guillemets sur les morceaux du MySpace. Hein. C'est ça qui était le déclencheur.
Voilà, ça a été le déclencheur.
D'accord. Et vous avez profité de la tournée en Allemagne pour
asseoir
le truc. Quoi.
Je pense qu'effectivement, ils ont vraiment tilté sur les chansons parce qu'en fait, on jouait à Cologne, qui était pas très loin de chez eux. Ils sont même pas venus nous voir.
Ouais. D'accord. Ok. Sur ce label, concernant ce label, est-ce qu'ils sont représentatifs d'un style particulier?
Ah oui.
C'est ciblé quand même comme.
C'est très très coloré. C'est vraiment. Ouais. C'est vraiment new wave gothique.
D'accord.
Bah, écoute, leur tête de gondole, c'est entre guillemets. Hein. Mm-hmm. Si l'État ne serait pas très content, c'est Wayne Hussey qui était guitariste du Storm Mercy.
D'accord. Ouais. Ouais. Ok.
Chanteur de The Mission.
The Mission. Ouais.
Qui est un petit peu. Voilà, la tête de gondole, il n'y a pas d'autre mot. Mm-hmm. L'artiste phare. Donc voilà, c'est quand même assez connoté au niveau esthétique.
Mm-hmm.
Je ne suis pas très sûr que Double Elvis corresponde forcément à cette esthétique un peu 80s. Mais bon, il y a quand même des passerelles entre tout ça.
Des passerelles, Ils ont un catalogue fourni. Combien d'artistes
est-ce c'est pas mal, hein, parce que là, il y a.
C'est assez nombreux.
Ouais, en plus du EP, en fait, ils viennent de sortir une compil qui s'appelle Correlation, et sur laquelle il y a 36 artistes.
Rémi m'en a parlé un petit peu.
Ouais, ok. 36 artistes.
Hein. 36 artistes. Mmh. D'accord, donc ça veut dire que c'est quand même un label qui dure depuis un bout de temps, ça fait quelques années qu'il sévisse.
Qui est en train de monter en puissance.
D'accord.
c'est plutôt pas mal et c'est vraiment des gens qui se bougent, quoi.
D'accord. Maintenant, du point de vue de la distribution, donc distribution en Allemagne, j'imagine, ils ont des contrats globaux ou c'est par artiste? Typiquement, l'EP de Double Elvis, il est distribué en Allemagne, j'imagine.
Ouais, alors, en fait, nous, on a signé pour un EP et pour l'album.
Et pour l'album, ouais.
Donc, je pense que les choses sérieuses vont se passer plus sur l'album, hein, parce que là, le EP, c'est plus une carte de visite.
Ouais.
Qui va être envoyé un petit peu à tout le monde. Il va quand même être distribué, mais dans vraiment dans des portions congrues, quoi.
Ouais.
Ça va pas être.
C'est un objet promotionnel, on peut dire un petit peu ça. Ouais.
C'est quand même avant tout un objet promo, mais qui est quand même à la vente. Hein.
D'accord.
Et c'est même doublement un objet promo parce qu'en fait sur ce EP qui a 5 titres, finalement sur l'album qui sortira en fin d'année, il y a que 2 titres qui subsisteront de ce EP-là. Donc c'est aussi un espèce d'objet un peu unique qui n'existera plus, quoi.
D'accord.
Mais la vocation de ce EP là, c'est pas forcément d'en vendre des caisses. Hein.
Ouais.
Attends, aujourd'hui,
donc,
peut-on encore en vendre des caisses?
Déjà, oui, c'est, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais donc distribution, j'imagine, pour l'EP et pour l'album. Y a quoi donc pour la distribution en magasin en Allemagne? Ils ont un contrat avec.
Ils travaillent avec Intergroove, en fait, qui est un gros réseau mondial
de
distribution d'artistes.
Ok.
Et qui s'occupe en fait de distribuer l'album mondialement, en ayant des interlocuteurs pays par pays.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en France, par exemple, Intergroove, c'est Wagram.
Qui est un distributeur indépendant sur le territoire.
C'est le plus gros, je crois. C'est le plus gros indé du territoire.
D'accord.
Ce qui fait que le Double Elvis, l'album, quand il sortira en France, repassera par le réseau Wagram, en fait, pour être.
D'accord. Pour être donc ça c'était ma question suivante. Ça veut dire que ces choses-là sont déjà définies.
Oui.
D'accord.
Complètement.
Donc, le disque, même à la limite de l'EP, non, on peut parler. C'est vrai pour l'EP également?
Non.
Non, ce sera pour l'album.
Et puis c'est une volonté commune. Hein.
D'accord.
Là, encore une fois, c'est une carte de visite.
C'est une carte de visite, ouais. Donc à la limite, il serait disponible à la demande.
Il est disponible à la vente via Internet.
Via Internet, ouais.
Il est déjà disponible sur iTunes, enfin toutes les plateformes de téléchargement légal. Ce qui ne mange pas de pain, hein, parce que c'est pas parce que tu fais un disque promotionnel que tu peux pas non plus.
Oui, exactement. Ouais.
D'accord. Donc voilà quoi.
Ok. On va se faire une première pause musicale. On va écouter bien sûr des extraits, tous les extraits de cette EP ce soir dans l'émission. Le titre qu'on va vous proposer, le deuxième titre de cette EP qu'on va vous proposer, c'est Virginia Tech. On peut en parler un petit peu parce que c'est une version live.
C'est une version live qu'on a enregistrée au Vauban au mois d'octobre dernier.
Ouais.
Et c'est le premier morceau que j'ai écrit pour Double Elvis à l'époque en 2008.
D'accord.
Et. Une anecdote assez, enfin pas marrante du tout d'ailleurs, enfin bref, c'était le 3e anniversaire du massacre de Virginia Tech il y a 3 jours. Et c'était le 16 avril, le jour de la sortie, et c'est pas un fait exprès.
D'accord.
C'est un truc que j'ai découvert moi-même sur internet en tapant la date, en tapant Virginia Tech, quoi.
D'accord.
Je me suis rendu compte que c'était le 3e anniversaire.
16-04.
Et le premier morceau que j'ai écrit à l'époque, instrumental, pour Double Elvis. Donc voilà.
D'accord. Ok, très bien. On va s'écouter ce titre. Vous écoutez This Is, tous les chats sont gris, numéro 174, une émission spéciale consacrée à Double Elvis, et c'est sur Fréquence Mutine 103.8. Le titre à venir, c'est Virginia Tech, sur l'EP de Double Elvis. C'est maintenant.